et puis lui-même lui prend job là. Et ensuite nous voyons la communauté internationale, eh bien c'est lui-même qui voulait. Donc pas oublier qui s'est passé avec le premier ministre Justin Trudeau. On y a non pas parler le mal non parce que il est en peine avec ça qui a passé en Ukraine. C'est quand même une situation très triste que nous sommes capables de dire. Et la situation est vraiment triste. Le nous voyons comment tout le monde a mouru, grand monde a mouru. Alors, ce n'est pas une chose vraiment facile. Alors, Henriques n'a pas avec nous et dans pas grand temps. Dans pas grand temps, Victor Henriques n'a pas avec nous. En attendant, nous avons une petite pause, nous avons tourné.
Mais aujourd'hui, tout est gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos maires au marché sont divisés.
Alors, c'est le monde qui va mal. Le monde qui va mal, c'est Kenja. Hein? Alors, c'est partout. L'Afrique, l'Amérique. Et ça va mal un peu partout. Alors, c'est toujours avec grand plaisir que je reçois pour vous Victor Henriques, stratège en communication. Victor, bonjour. C'est toujours avec grand plaisir.
Bonjour, Raymond.
Oui.
Bonjour Raymond, merci encore de me recevoir. C'est toujours un plaisir pour moi aussi.
Bon, alors on avait raison la semaine dernière que ça allait tourner très mal.
On savait que ça allait tourner mal, je te dirais que ça a peut-être tourné plus vite qu'on pensait. L'invasion d'Ukraine c'est toujours une très mauvaise nouvelle. Faut d'abord, puis je me permets, Raymond, d'abord de transmettre nos condoléances au peuple ukrainien. Nos prières aussi, parce qu'il y a des familles affectées, c'est ça le plus dur là-dedans. C'est les civils, justement, qui sont victimes de ces attaques. Mais malheureusement, je pense qu'on l'avait tous vu venir et espérons maintenant que ça dure le moins longtemps possible.
C'est quand même triste de voir la situation. Et la semaine dernière, pas la semaine dernière, en fait, j'écoutais le discours au complet d'une heure de temps de Vladimir Poutine mardi. Alors, en le voyant venir, on voit en lui un sadique, un criminel. Et finalement, il a passé à l'action.
Je te dirais, Raymond, tu sais, moi je me méfie toujours des politiciens qui parlent très très longtemps dans leurs discours. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent un point en commun qu'ont des hommes politiques à tendance narcissique. Ont tendance à faire de très longs discours fleuves. Et ce qu'on entend dans le discours de Vladimir Poutine, c'est que au-delà de l'attaque de l'Ukraine, il y a une véritable vision de l'empire russe, de la Russie, agrandie. Il y a une propagande aussi qui se fait dans son discours, des choses complètement fausses qui circulent sur l'extrême droite qui serait au pouvoir en Ukraine, des nazis qui attaqueraient les rebelles pro-russes, etc. Alors, dans ce discours très long de Vladimir Poutine, il y a littéralement une volonté de lavage de cerveau de sa population. Il faut le rappeler, en Russie, en ce moment, il y a des opposants, il y a des gens qui ne veulent pas de cette guerre. D'ailleurs, on a vu un joueur de tennis au tournoi de Dubaï qui a signé, au lieu de signer un autographe, lorsqu'ils finissent les matchs, ils signent les caméras, Raymond. Et lui, il a signé « Pas de guerre, s'il vous plaît ». Alors, même dans la communauté, même chez les Russes, il y a une opposition à ça. Cependant, on le sait tous, Vladimir Poutine a annulé tout principe d'opposition dans son pays, ce qui fait que c'est un dictateur démocratiquement élu, on va appeler ça comme ça. Et oui, il est fou, comme malheureusement l'histoire nous a montré un peu trop de fous. Puis on a tous l'expérience de dictateurs et de gens un peu dérangés qui, malheureusement, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, mettent la planète en péril.
Alors, même s'il y en a qui demandent la paix, mais j'ai vu un joueur de hockey. Alors, c'est un Normand de Vladimir Poutine. Lui, il disait qu'il est mon président. Allô? Est-ce qu'on a perdu Victor?
En Russie?
Oui.
Vraiment, est-ce que vous m'entendez? Moi,
entends. Bon, OK, d'accord. Alors,
c'est ça, on parlait, Raymond, de ces gens autour de Vladimir Poutine, ce que j'appelle la garde rapprochée. Hein. Il y a des athlètes, il y a des présidents de fédérations internationales. D'ailleurs, le CIO est intervenu pour dénoncer ça. Et on parle de plus en plus d'une exclusion pure et dure de la Russie de tous les sports internationaux. Donc, vraiment, il y a une organisation qui se fait. C'est aussi qu'au niveau du soccer, par exemple,
même la Coupe du Monde, même la Coupe du Monde. La Coupe du Monde.
Et même la Coupe du Monde.
Un grand événement comme ça.
Exactement. Et la Pologne ne joue pas le barrage contre la Russie. Donc, la Russie est automatiquement exclue de la prochaine Coupe du Monde. Alors, la planète est en train de bouger pour tenter d'arrêter Vladimir Poutine. Mais il faut le rappeler, Raymond, aux gens qui nous écoutent. Le grand danger ici, c'est que l'Ukraine soit une première étape. Ce que Vladimir Poutine fait en Ukraine, c'est ce qu'il a fait aussi en Biélorussie, la volonté principalement de mettre un leader pro-russe pour empêcher l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN. L'enjeu maintenant, c'est s'il décide d'aller plus loin que l'Ukraine. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'un pays de l'OTAN est attaqué, obligatoirement, c'est tous les membres de l'OTAN qui se considèrent attaqués. Le principe même de l'OTAN fait que si, par exemple, Vladimir Poutine attaque la Pologne, la Roumanie, l'Estonie, ces pays-là qui sont membres de l'OTAN, à ce moment-là, l'OTAN doit se mobiliser et l'OTAN se retrouve en guerre, ce qui inclut le Canada et les États-Unis. Donc, c'est là où la diplomatie internationale doit également se projeter. C'est probablement le plus grand défi de la diplomatie internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on est dans une situation où est-ce qu'on doit maintenant prouver que cette diplomatie-là qu'on a mise en place pour éviter une nouvelle guerre mondiale fonctionne. On n'a jamais été aussi sous pression du côté de la diplomatie internationale.
Il y a deux choses que j'aimerais souligner, et Victor, c'est à la Chambre des communes, avec la loi des mesures d'urgence, On a pu remarquer, en fait, hein, le dilemme de Justin Trudeau. Mais ouais. Quand il s'agit de faire mal à un pays indépendant, comme en l'Ukraine, et on a vu que toutes les formations politiques hein, se joignent à lui. Et c'est quand même important. Oui, c'est ça, la démocratie.
Ben, c'est ça, la démocratie, exactement. Et c'est important, Raymond, ce lien que tu fais, parce que on a eu un grand débat sur la loi sur les mesures d'urgence. D'ailleurs, je tiens à dire que autour d'un bon verre de Barbancourt, on pourra un jour discuter, toi et moi,
bien sûr,
de la stratégie de Justin Trudeau derrière ça. Parce que Justin Trudeau a eu une stratégie très fine. Parce qu'il a ouvert un débat sur la loi sur les mesures d'urgence en sachant que probablement que quelques jours après, il n'aurait plus à l'utiliser. La loi a été adoptée et le lendemain, Justin Trudeau l'a abrogé. Donc, c'est un move stratégique, ça n'arrive pas par hasard, ces choses-là. Mais oui, il y a eu un grand débat, et quelques jours plus tard, avec l'invasion de l'Ukraine, on se retrouve à avoir tous les partis qui dénoncent de la même façon. Tout le monde veut des mesures, tout le monde est derrière l'Ukraine à appuyer le gouvernement canadien. Et oui, c'est ça les grandes démocraties, c'est qu'on est capable de débattre, mais aussi on est capable de se réunir lorsque vient le temps de faire les vrais débats importants. Et de protéger les populations civiles, parce qu'il faut le rappeler, c'est ça, à ce moment-ci, qui est la priorité de tous les pays de la planète, en sachant aussi qu'une intervention militaire en Ukraine n'est pas possible pour ces pays-là, parce que ça viendrait brimer, ça viendrait trahir plusieurs traités internationaux, qui, à ce moment-là, également mettraient en péril la stabilité de la planète au complet.
Et le deuxième exemple, c'est l'exemple du président de la France. Malgré qu'il est en campagne, mais sa campagne... Et il s'en occupe presque plus. Il parle de l'Ukraine et il a posé un geste que j'ai apprécié en faisant appel à deux anciens présidents de la France, Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour demander des conseils.
Tout à fait. Et ça, c'est on a déjà vu Justin Trudeau le faire, Stephen Harper également. Emmanuel Macron, de toute façon, depuis un moment, veut rentrer le plus tard possible dans l'élection présidentielle française. Il faut savoir qu'à partir du moment où il va se déclarer candidat, c'est sûr que les attaques vont fuser, puis sa capacité à gouverner sera la même, mais il y aura quand même un peu moins de liberté de gouverner, parce qu'il y a toujours cette question de ne pas gouverner dans le but d'être partisan. Mais à ce moment-ci, on sait tous que Emmanuel Macron sera candidat. À ce moment-ci, ce qu'on a besoin, c'est d'Emmanuel Macron président de la France. La Russie est très proche de la France. Vous savez, il y a des alliés naturels, des alliances naturelles. Nicolas Sarkozy avait une certaine amitié, disons, au moins une bonne camaraderie avec Vladimir Poutine à une certaine époque. Alors, on va utiliser ces canaux diplomatiques parce que la France joue le rôle un peu de courroie de transmission entre les États-Unis et la Russie. C'est un rôle extrêmement important. Macron sait que la France peut faire débloquer ce conflit d'une certaine façon. Et oui, je pense que son rôle est essentiel, ce qui va aussi lui donner un peu cette stature de chef d'État que plusieurs de ses adversaires dénonçaient durant la campagne présidentielle qui se faisait un peu à ses côtés, parce qu'il n'est pas encore complètement en campagne, mais ça va beaucoup l'aider certainement pour cette campagne présidentielle. Vous savez, la dernière chose qu'on veut, Raymond, dans des temps instables, c'est de l'instabilité politique dans les pays du G8. Alors, je pense que ça, Emmanuel Macron sait très bien que son élection passe par un rôle sans faille dans le cadre du conflit avec l'Ukraine. Et il va donc utiliser tous les moyens à sa disposition, incluant ses anciens collègues, incluant les anciens présidents, et peut-être même incluant d'autres figures françaises qui sont très proches de Vladimir Poutine. Je pense entre autres à l'acteur Gérard Depardieu, qui est un ami de Vladimir Poutine. Et je vais être très honnête avec vous, Raymond, ça peut sembler bizarre, mais je m'attends à ce que M. Macron fasse même ce genre d'appel-là. Toute influence sur Vladimir Poutine sera utilisée pour tenter de lui faire reprendre un peu raison et d'ouvrir des discussions diplomatiques.
Il faut saluer également un pays comme la Pologne, par exemple.
Le courage de la Pologne est extraordinaire et la Pologne est aux frontières. Justement, je le disais tantôt, hein, c'est la première barrière de l'OTAN. C'est là qu'on envoie les forces présentement qu'on déploie dans la région, parce que c'est là où est-ce qu'on doit aussi démontrer que, comme l'a dit Joe Biden, tu l'as entendu également, Raymond, comme moi, pas un pouce ne sera permis à Vladimir Poutine en territoire de l'OTAN. Et la Pologne est probablement le pays le plus exposé. La Pologne également, dont la Fédération de soccer a dit « nous ne jouerons pas contre la Russie ». la Pologne qui a trop de souvenirs de cette époque, de son époque dans l'Empire soviétique, qui ne veut pas retourner là. Et oui, c'est un pays sur le qui-vive qui accueille beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens en ce moment. Et on a besoin aussi d'aider la Pologne à ce qu'il garde sa stabilité économique et politique. Donc, je m'attends à ce que les pays de la planète s'organisent aussi pour accueillir des réfugiés ukrainiens dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
C'est quand même un peu fou de la part de deux présidents, deux candidats à la présidence en France. C'est Zemmour et Marine Le Pen qui ont appuyé la position de Vladimir Poutine. C'est quand même une tristesse.
C'est d'une grande tristesse, mais ça démontre aussi à quel point ces gens-là ne sont pas là pour gouverner, mais ils sont là pour faire des débats d'idéologie profonde. Hein. Et Éric Zemmour est un peu poigné dans sa position parce que lui-même avait dit que Vladimir Poutine avait raison d'une certaine façon de dénoncer la possibilité que l'Ukraine soit membre de l'OTAN, que l'accord de Minsk justement devait donner à Vladimir Poutine une zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Et là, ils se retrouvent un peu coincés parce qu'en ayant cette position-là dans le passé, aujourd'hui, ils s'en viennent à appuyer une guerre, littéralement. Ils s'en viennent à appuyer la mort de civils. Mais je pense que c'est une bonne chose que ça nous rappelle à quel point ces extrémistes sont dangereux pour la planète. Et tous les extrémistes de la planète sont dangereux. Éric Zemmour, et lorsqu'on entend le discours, je suis sûr que les gens sont très occupés dans la vie. Je suis sûr que tout le monde écoute Éric Zemmour et ses discours comme nous on le fait, Raymond, parce qu'on est passionné de la chose. Mais littéralement, cet homme-là est fou. Cet homme-là veut changer le nom de certains Français parce qu'il ne les trouve pas assez Français. C'est un gars qui a une vision d'immigration extrêmement raciste. Puis Marine Le Pen, ben, je veux dire, on n'a pas besoin de faire de présentation. Marine Le Pen, c'est la fille de Jean-Marie Le Pen. Et aussi douce, aussi radoucie soit-elle dans la position, ça reste que c'est une fille d'extrême droite. Donc, je pense que quelque part, ça nous permet de voir le vrai visage de ces extrémistes-là qui, par idéologie, se mettent à appuyer des positions invraisemblables et qui, aujourd'hui, se retrouvent poignés à appuyer une guerre, littéralement. Et ça, je pense pas que les Français nécessairement l'acceptent, parce que la France, c'est quand même un pays extrêmement démocratique. Liberté, égalité, fraternité pour la France. Alors, je pense que ça nuira beaucoup à la campagne de ces deux personnages d'extrême droite.
Alors, et la France a passé à l'action. Ils ont saisi un bateau et russe aujourd'hui. Mm-hmm. C'est un bon exemple. Et les avoirs, en fait, de tous les chefs et de partis qui ont leur somme d'argent investie à l'extérieur sont tous en saisie, excepté la Suisse, qui n'est pas tout à fait à l'aise avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'argent là, qui sont déposés dans ces comptes-là.
Et la Suisse qui, rappelons-nous, la Suisse, c'est la neutralité même. Donc, ils vivent avec cette position de neutralité. La pression sera très forte sur la Suisse pour intervenir également. Mais il faut le rappeler, Raymond, les mesures économiques ont souvent un rôle de symbole. Parce que le succès de ces mesures économiques est très limité. J'entendais des spécialistes dire que ça marche dans seulement 5% des cas. Donc, il faut le faire, par exemple. Ne pas le faire est une erreur. C'est également une symbolique forte. Ça montre qu'on est en action. Mais je ne pense pas que c'est à travers ça qu'on va réussir nécessairement à mettre Vladimir Poutine dans une position où est-ce qu'il devra changer sa position. Je pense qu'au contraire, c'est la diplomatie internationale, c'est la pression sur ses collègues naturels, ses amis naturels, ses camarades naturels. C'est à travers cette pression-là qui va se faire de la planète au complet vers la Russie qu'on va réussir à avoir un changement dans le discours et aussi une volonté de négocier, parce que cette guerre-là se réglera autour d'une table de négociation. Et ça, il faut le rappeler, toutes les guerres finissent par se régler autour d'une table de discussion. Il y aura un accord à un moment donné. Et cet accord-là, ce qu'on veut, c'est qu'il soit le plus rapidement possible.
Alors, ça tombe bien, tout de suite après toi, on va rencontrer un top en finance, M. Jimmy Jean.
Ah ben c'est extraordinaire parce que Dieu sait que les conséquences économiques seront nombreuses. L'Ukraine est attaquée, les Ukrainiens souffrent, mais c'est la planète au complet qui va trembler économiquement. Je suis très heureux que tu reçoives un spécialiste du secteur avec lequel tu pourras également discuter, j'en suis sûr, de ces différents volets-là.
C'est toujours un plaisir d'être avec toi et sur les ondes, mon cher. Il va falloir qu'on fasse une petite rencontre avec Harold, qui est intervenu sur RDI cette semaine.
C'est particulier parce que justement, on se parlait avant cette entrevue. J'ai parlé avec lui. D'ailleurs, il te salue. Je sais que sa mère nous écoute régulièrement et
Tout à
on
fait.
disait, tu sais, dans ces dossiers internationaux, Harold est un passionné de relations internationales. Il a été responsable des relations internationales du premier ministre Couillard. Donc, il m'a aidé beaucoup aussi à bien comprendre les différents aspects de ce conflit-là. Alors, dis-toi qu'il est avec nous en pensée et en écoute présentement.
Tout à fait, mon cher. Merci et bon week-end.
Merci, Raymond.
Alors, ta mère était à l'occasion de du mois de l'histoire des Noirs. Hein? Ta mère était en vedette à Montréal-Nord. Ah, il est déjà
Ah, mais
parti.
tu sais que
Ah,
nous
ok.
sommes. Merci, Raymond. Non, mais Raymond, j'allais dire, tu sais, ma mère est très impliquée et surtout, tu sais qu'au bout de la ligne, moi, je l'ai toujours dit, Raymond, moi, je suis haïtien de cœur. Alors, c'est sûr que pour nous, l'avenir des jeunes dans nos communautés est extrêmement essentiel. Ma mère est très impliquée là-dedans. Alors, merci de le souligner. Tu sais que c'est pour elle important puis c'est sincère.
Merci, mon cher. Alors,
Merci, à bientôt.
c'était Victor Henriques, stratège en communication que vous venez d'entendre. Nous allons faire une petite pause et nous retourner tout de suite après avec Monsieur Jimmy Jean. Alors, et de retour en ondes, c'est avec un grand plaisir que je vais recevoir un top au niveau de finances en la personne de Monsieur Jimmy Jean. Alors, Monsieur Jean, c'est avec le grand plaisir que je vous reçois une deuxième fois, sinon une troisième fois, sur les ondes de CKUT, l'émission Samedi Midi Inter. J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va très bien, merci.
Très occupé.
Ah oui, ça c'est certain. L'actualité économique Et bon, géopolitique nous tient évidemment très en haleine et au niveau des prévisions économiques et des implications. Donc, ça demande beaucoup de travail.
Et moi, je peux vous dire que vous êtes une fierté pour nos jeunes de la communauté haïtienne. Vous êtes arrivés quand même assez jeunes. Et des parents, et quand même de bons parents, dois-je dire. Et je salue votre père également, qui est un fan de l'émission Samedi Midi Inter, semble-t-il.
Ah oui, absolument. Il écoute religieusement. D'ailleurs, il est à l'écoute et je le salue.
Avec plaisir. Alors, et j'aimerais que vous nous donniez un peu votre parcours, Jimmy.
Oui, donc pour mon parcours, c'est un parcours classique de jeune de la communauté haïtienne. Donc, je suis né ici. Mes parents ont immigré dans les années 70. Mon père travaillait comme enseignant. Au secondaire et ma mère a travaillé comme infirmière et donc j'ai un parcours disons je suis d'origine bien humble et puis des parents qui travaillaient très fort pour nous donner la meilleure éducation possible et donc ça m'a permis de justement aller pouvoir aller à l'université. J'ai étudié à HEC Montréal en administration des affaires et j'ai obtenu mon bac et surtout la concentration économie, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai poursuivi au niveau de la maîtrise en économie appliquée, toujours à HEC Montréal. Et puis, ensuite, avec mon diplôme de maîtrise en poche, j'ai pris la direction d'Ottawa. J'ai travaillé pendant 5 ans à Statistique Canada. Donc, ça m'a permis de me familiariser, de gagner de l'expertise avec les données au niveau de l'économie canadienne. Ensuite de ça, je suis allé du côté de Toronto. J'ai travaillé 2 ans à la Banque Royale. J'ai travaillé aussi à New York du côté de Moody's. Et puis, je suis après ce petit tour, je suis revenu à Montréal près de ma famille. Et puis, depuis 11 ans maintenant, je suis chez Desjardins.
Alors, et c'est pas n'importe qui peut rentrer chez Moody's, hein, en passant.
Le concours de circonstances était intéressant parce que d'autant plus que c'était durant la dernière grande crise financière en 2008. Donc, je suis arrivé là en plein durant cette crise-là et puis je me disais qu'est-ce qui va m'arriver? C'était une période assez stressante. On pensait que c'était la fin du monde ou du moins on pensait que c'était vraiment la pire crise depuis la Grande Dépression. Ce qui n'était pas tout à fait faux, mais curieusement, c'est là que je me suis rendu compte que quand on est un économiste, c'est dans ces contextes-là qu'on est les plus en demande. Donc, ça a vraiment été une expérience très enrichissante. Et là-bas, du côté de Moody's, ils avaient des économistes qui couvraient l'économie mondiale. Mais on avait besoin d'un économiste canadien. Dans ce temps-là, ça n'allait pas très bien aux États-Unis à cause de l'effondrement du marché immobilier, l'endettement et les banques qui rationnaient le crédit. Donc, les entreprises cherchaient beaucoup à voir qu'est-ce qui se passait au Canada, parce que le Canada s'en est beaucoup mieux tiré. Donc, il y avait beaucoup d'entreprises qui cherchaient des opportunités d'affaires, d'expansion au Canada, qui voulaient en savoir plus sur l'économie. Et moi, j'arrivais comme économiste en provenance du Canada. Donc, j'étais à la bonne place au bon moment, on peut dire.
Bon, alors, quelles sont les conséquences pour Vladimir Poutine qui a pris la chance avec tous les supports que l'Ukraine a au niveau international?
Évidemment, la situation est très fluide au moment où on se parle. Il y avait plusieurs spéculations ou options possibles. On pensait que peut-être la Russie allait simplement se concentrer sur les territoires pro-séparatistes en Ukraine. Et finalement, c'est une offensive qui est beaucoup plus élargie. La capitale Kiev qui est sous bombardement. Donc, on cherche ni plus ni moins à prendre la capitale. Je pense à ce stade-ci, on peut dire que c'est Poutine cherche à envahir le territoire ukrainien au complet et surtout déstabiliser le régime en place. En fait, opérer un coup d'État, si on peut dire, et installer un régime qui serait à la solde de la Russie. Donc, de ce qu'on comprend des dernières communications de Poutine, ça s'est clarifié dans ses derniers discours, où est-ce que vraiment il a complètement changé de ton. Et donc la nature de ces récriminations et la justification pour cette intervention-là, ça s'est clarifié beaucoup dans ces derniers discours très belligérants. Et là, on comprend que c'est quelque chose de majeur. C'est pas seulement une faire pression pour négocier avec les pays de l'Occident. C'est vraiment que la Russie veut réparer, ou Poutine veut réparer ce qu'il estime être des torts du passé. Et il croit fermement que l'Ukraine doit faire partie du giron de la Russie.
Et il demande même à l'armée de révolter contre le président actuel.
Absolument, absolument. C'est la stratégie qu'il veut. Je pense que d'abord et avant tout, ce qu'il souhaite, c'est de renverser ce gouvernement-là qu'il dit illégitime, anti-russe et donc aussi à la solde de sa perspective, à la solde des pays de l'Occident et beaucoup de la justification aussi de cette intervention-là, c'est la menace que M. Poutine ressent de la part des pays de l'Occident. Il y a une crainte que la Russie perde du pouvoir, perde de l'influence. Il y a ces enjeux-là plus géostratégiques qui font aussi partie de l'équation.
Alors, c'est une situation quand même assez difficile, mais la Russie a beaucoup à perdre. Et quand on voit, par exemple, la Coupe du Monde et la course automobile, et c'est quand même beaucoup et pour la Russie en termes de pertes, je pourrais dire.
Oui, absolument. Les sanctions n'ont pas tardé. On avait menacé, tout le moins. Et c'est la particularité, c'est que les Américains, les pays de l'Occident, les Européens, on avait bien mis au clair qu'il y aurait des sanctions assez sévères si la Russie décidait d'envahir l'Ukraine. On espérait que ça empêche, que ça amène Vladimir Poutine à réfléchir avant d'envahir l'Ukraine. Ça n'a pas réussi. Mais effectivement, on est à un stade où on met ces sanctions-là à exécution. Donc oui, ça veut dire que beaucoup de ces événements-là qui devaient avoir lieu sont annulés, mais ça va encore plus loin parce que on parle aussi de, on empêche les grandes institutions financières de transiger à l'international. On bloque donc certaines des grandes banques sont placées sur une liste noire. Le gouvernement aussi on bloque l'accès au marché des capitaux étrangers. Donc ça, on étouffe un petit peu l'économie russe. Ça va causer des hausses fulgurantes des coûts d'emprunt, c'est déjà le cas, et ça pourrait causer des enjeux et même des certaines entreprises à la faillite. Il y a une panoplie aussi d'autres mesures qui sont appliquées et qui sont envisagées. La plus sérieuse, ce serait couper l'accès aux banques russes, au système international SWIFT de paiement interbancaire. Et ça viendrait drôlement paralyser le système financier en Russie. Et si tout ça se matérialisait, ben ça pourrait générer un mécontentement populaire en Russie parce que déjà cette guerre-là chez les Russes, on a vu il y a eu des manifestations qui ont été évidemment réprimées, mais Cette guerre-là, il n'y a pas un support, un appui si significatif que ça en Russie pour aller en guerre. Donc, et si en plus ça amène de la souffrance économique, des pertes d'emploi, c'est vraiment un gros pari, en fait, que prend Poutine parce qu'il y a des conséquences majeures pour son économie.
Est-ce que ça vous étonne de voir que le président de la Chine se met à l'écart de Poutine dans cette guerre contre l'Ukraine?
Oui, c'est un exercice qui est délicat pour la Chine. En fait, on joue un peu, on parle un peu des deux côtés de la bouche, hein. En même temps, du côté de la Chine, on cherche pas trop à cautionner un acte de guerre. En même temps, l'Occident et particulièrement les États-Unis sont un adversaire sur le plan géopolitique pour les Chinois. Et je pense que les Chinois regardent très, très, très attentivement ce qui se passe et surtout la réaction des États-Unis parce que ils voient ça comme une sorte de test. Les Chinois ont des ambitions similaires au niveau du territoire, au niveau de Taïwan, cherche à reprendre ce territoire-là, l'amener dans le giron de la Chine, et effectivement, vont observer comment les grandes puissances réagissent par rapport à l'Ukraine pour voir à quel degré ils vont rencontrer la résistance s'ils décidaient de procéder eux aussi à une sorte d'invasion militaire au niveau de Taïwan. Cela dit, il y a quand même des implications pour l'économie chinoise s'ils se mettent trop s'ils s'allient trop avec la Russie. Il y a beaucoup d'entreprises chinoises. La Chine, c'est un grand exportateur sur les marchés mondiaux. Il y a des façons aussi que les Américains ou les Occidentaux, les Européens, le Canada peuvent appliquer des sanctions à la Chine s'ils déterminent que la Chine est trop en support finalement à la Russie. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils font un petit peu attention.
Alors, et je me rappelle pendant l'ouverture des Jeux Olympiques en Chine, et comment les deux compères étaient l'un à côté de l'autre, et qui est
Oui.
différent maintenant, hein?
Oui, exactement. Effectivement, la situation depuis a vraiment. On est passé à un autre stade, et puis donc ça devient un petit peu plus délicat sur le plan diplomatique. Et il y a beaucoup d'enjeux. C'est des enjeux de très long terme. Et je pense que dans tout ça, on cherche à jouer de prudence au niveau économique. La Chine est en ralentissement économique en ce moment. Ça va pas très bien. Ils ont une crise sur le marché immobilier. Il y a des enjeux aussi au niveau du système financier, avec la chute d'une grande institution sur le marché immobilier, le Evergrande. Donc, c'est pas le moment en ce moment pour la Chine de venir exacerber ces pressions négatives-là. Mais c'est certain que sur le plan géopolitique, on observe quand même les choses de très près parce que la Chine comme la Russie, ce qu'elles ont en commun, faites bien de le mentionner, c'est que c'est des régimes autocratiques et finalement, ce conflit-là, ça devient un affrontement entre régime autocratique et régime démocratique. Donc, et c'est pour ça qu'il y a une espèce d'alliance qui est naturelle entre la Chine et la Russie, même si la Chine cherche pas, reste un petit peu en second plan pour l'instant dans le conflit.
C'est toujours avec grand plaisir que je vous reçois à l'émission Samedi Midi Inter de Radio CKUT, Monsieur Jimmy Jean. Je vous souhaite un bon succès dans votre travail et encore une fois, bon courage et salutations à ta famille.
Bien, merci beaucoup et continuez votre excellent travail depuis ces nombreuses années.
Merci. À la prochaine.
Merci.
Alors, c'était M. Jimmy Jean que vous venez d'entendre. Et je dis, c'est un infatigable. Alors, et nous allons continuer en musique. Il y a d'autres intervenants. Mais je vais probablement tenter de prendre quelques appels avec cette situation parce qu'à 12h30, je vais recevoir M. Benoît Charette. Et comme c'est le mois de l'histoire des Noirs, on va peut-être en faire une petite conversation avec lui et pour quelques minutes. Et parce que le mois de l'histoire des Noirs, ça concerne et la communauté également. Et surtout, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées dans la communauté haïtienne. Et le mois de l'histoire des Noirs, c'est le temps d'honorer et des gens. Alors, le ministre trouve important qu'il s'adresse à la communauté. On va voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Et il y a quand même une activité au Gap en Vie et pour le 4 mars. Alors, c'est quand même très important. C'est des soupers-conférences qu'on fait. Je vous donne la lecture immédiatement. Alors, c'est dans le cadre de l'édition 2021-2022 de ces conférences publiques d'éducation et d'augmentation des connaissances dans le domaine du VIH et de l'hépatite C. Alors, GAPVIE vous invite à participer à une conférence en format hybride le vendredi 4 mars de 19h à 19h, présentée par Dr. Emmanuel Huchette, médecin généraliste à la clinique médicale L'Agora, qui traitera les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les efforts pour éradiquer l'hépatite C. Alors, participation pour ceux et celles qui veulent participer à cet événement en présence au siège social de GAPVIE, qui est au 3330 rue Jarry-Est. Alors, c'est ça. Et on ne peut pas observer tout. Et nous capables toujours relayer GAPVIE dans le numéro de téléphone. Je vais vous le donner. Mon cap présenté dans la conférence là. Yo capable aller en direct. Là, je ne vois pas le numéro. Bon. Juste un petit instant. Alors, faut que moi dis mon yo que il y a besoin également et masque pour yo présenter la conférence là. Alors, je reviens là-dessus. Je crois que nous tous nous connaissons l'adresse de GAPVIE. N'a retourné sous lit avant que nous allions. Avant que nous allions, n'a retourné sous lit encore. N'a pas salué Serge Moïse qui est toujours à l'écoute. Maître Moïse. Alors, nous allons faire une petite pause publicitaire et n'a pas retourné tout de suite après la pause. Alors, faut que nous payions le loyer, comme on dit si bien. On part.
Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec.
Attention, attention. Vous avez des projets d'achat d'une maison. Condo, duplex, des projets de financement, refinancement ou de renouvellement hypothécaire. Contactez Louis-Yves Lucien, courtier hypothécaire affilié à Multiprêt Hypothèque. Afin de déterminer le montant du prêt hypothécaire pour lequel vous pourriez être qualifié et obtenir une lettre de préqualification avant de débuter vos recherches, appelez Louis-Yves Lucien. Dans un délai très court et sans frais de votre part, vous obtiendrez une lettre de préqualification hypothécaire émise par l'une de nos plus grandes institutions financières. Vous serez dès lors à un pas de devenir un heureux propriétaire. Communiquez sans tarder avec Louis-Yves Lucien au 514-867-8352 ou par email lylucien@multi-prêt.ca.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution, Bureau Comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôt à un prix compétitif.
Vous êtes dans la grande région de Montréal et ses environs?
Confiez vos rapports d'impôts personnels et d'entreprise au Bureau Comptable Cola.
Appelez dès maintenant le 514-374-0137. Chez Bureau Comptable Cola, votre comptable travaille pour vous.
Multiservices sans frontières met à votre disposition une panoplie de services.
Services offerts.
Déclaration d'impôt, titre de voyage pour réfugiés, visa américain, examen de citoyenneté et prestations de serment en ligne.
Vente et réparation d'ordinateurs, plomberie et électricité.
Multiservices sans frontières, 5372 Jean Talon Est. Téléphone 438-378-6925
ou 514-722-5669.
Alors, et c'est ça, on a pu continuer. Faut que moi dis non que dans pas grand temps, nous t'as supposé gagner Benoît Charette, ministre, et cap avec nous dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Alors, restez branchés, nous avons une salutation spéciale à Luckner Dragon, spécialiste en sonorisation. Alors, restez branchés. En attendant, nous capables de prendre quelques appels tout coûte. 514-448-4013. 514-448-4013. Alors, et après, fait une petite pause. Le numéro de téléphone pour que nous capables de joindre Gabvi pour réservation, c'est le 514-722-5655. Alors, 722-5655 dans le 514. Alors, oui, M. Neil, alors, tu es à l'écoute. Alors, il est toujours à l'écoute, lui. Hein? Il aime le parti du premier ministre. Hein? Et Neil, alors, c'est ça. Alors, nous sommes capables de prendre quelques appels, pas trop longs, 514-448-4013, parce que dans pas grand temps, nous pourrons recevoir le ministre qui est responsable en question de racisme, hein, racisme systémique. Non, ministre Pavlé, tant des bagailles racistes systémiques. Alors, étant donné que nous n'avons pas gagné appel, nous avons passé aux nouvelles de Jérémy.
Nous saluons tous les amis auditeurs samedi midi inter, mes nouvelles nous portent pour sous département Grand Anse dans le pays d'Haïti. Employés la commune ont fermé porte bureau depuis lundi passé parce qu'ils n'ont pas touché. Selon sa youn nan employé yodin, li gen plus ke yon l'année, li pa jam touché et puis gen l'autre qui gen presque de l'année, yo pa jam touché. Quelques jours avant, gon femme qui se mounokay yo ta l'installé. bureau conditions féminines dans le département Grand Anstand, mais syndicat femmes qui dans le département a bloqué installation si là. Semaine ça encore, yo t'a installé mais syndicalistes femmes yo t'est campé en quoi pired et yo t'est même rivé bouler caoutchouc devant bureau complexe administratif Jérémie. Suite à ça, FDN a coordonné font aucune chaîne manifestation pour demander. Apprendre mettre petite à moun grandans dans tête boîte l'état yo dans département et puis ou te profiter di à Balaviche cap valé terrain dans département grand ensemble particulièrement dans ville Jérémie. Vendredi soir vers 11h04 te a te tout souqué très fort dans la soirée et à 11h08 li souqué encore. Ça a créé un véritable panique kay tout monde jusqu'à ce que pi fort monde te sorti dans la rue. Yo pas dormi encore pour nuit là. Gon Margrave qui installé soif Jérémie en semaine là, directeur Semana qui c'est monsieur Lunes lui, t'es exprimé contentement pour ça. Il t'a dit petit petit oiseau a fini n'a travail pour une équipe pour capable répondre à quelques obligations qui inscrit dans code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires que Haïti t'a signé le 4 juillet 2004 là. Hier vendredi 25 février 2022, le ministère Affaires sociales et travail lancé un projet qui relève protection sociale adaptive pour une résilience accrue dans ville Jérémie. Projet ça qui gagne sinon jouet d'éclairer chemin joint support Banque mondiale pour le piloter pour accompagner monde qui plus pauvre dans département Grand Anse. Y a aider monde ça aussi tout dans ça qui gagne pour la santé, la mangeaille à mettre ti cob dans poche de temps en temps. Quelques frais accès compatriotes diaspora qui c'est moun di chiti sout fait di chiti cadeau yon gros machine ambulance yon lot bagay qui montre à clair apport diaspora à pays ya à côté tout l'argent y a voyé bay famille ak zami yo dans pays d'Haïti de temps en temps. Semaine 21 pour rivé 25 février 2021 candidat bac permanent yo tal composé pour une yem fois. Te gen an tout pour Grand Anselan, 1048 candidats qui t'inscrit. C'est toute nouvelle nous te pote pour vous, Walden Germain depuis Jérémie.
Merci Walden. Et encore une fois, n'a pe mande zami kap koute nou yo. Et le nou en onde pas rele s'il vous plaît. Et nou pap kap pran appel qu'on y a là parce que nous gagnons des invités que nous allons recevoir tout à l'heure. Alors, banon yon ti pause. Moi-même, je vais faire une petite pause musicale et m'ap tourner tout de suite après.
Thank you.
Alors, et Axel dit libranché. Alors, c'est ça, nous dehors, vous voulez mettre nous dehors, nous en dedans, nous pas gen caille. Et c'est bandit seulement qui gen caille. Nous voyons comment jeune yo y a mouri. Nous voyons comment jeune yo a mouri en babal. Jeune journaliste, monde qui va réclamer l'argent pour travail yo, hein, yo pas payé yo. Et c'est bourgeois au capé taille banda. Alors nous pas connaît dans qui ça que nous prend.